Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de réfléchir sur le texte de dimanche prochain tiré de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 5, les versets 1 à 11. Nous serons tout particulièrement attentifs aux interactions entre Jésus et Simon-Pierre. Commençons par lire le texte. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. La première partie de l'épisode concentre notre attention sur l'enseignement de Jésus. On nous dit en effet que la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, et on nous dit que Jésus s'assit et que de la barque, il enseignait le foule. Au centre de ce premier tableau, nous voyons Jésus observer qu'il y a des barques et demander au propriétaire de l'une d'elles, Simon, de bien vouloir le prendre à bord et de s'écarter un peu, et c'est de là qu'il enseigne les foules. C'est un système ingénieux pour deux raisons. La première raison, on nous précise que les gens se pressent autour de Jésus. À d'autres endroits, on nous dit même que les gens se jetaient sur Jésus et l'ayant vu faire des guérisons, et ils espéraient ainsi pouvoir le toucher et être guéris. Il n'est pas facile d'enseigner quand la foule se presse, donc Jésus prend un petit peu de distance, mais il y a un autre élément qui entre en jeu, c'est que depuis la barque, le rivage fait du coup une espèce d'amphithéâtre où le son qui part de Jésus dans la barque est porté par l'eau jusqu'au rivage et est porté avec une bonne qualité. Donc il y a un lieu propice à l'enseignement en se mettant dans la barque. À la fois, Jésus n'est plus écrasé par ceux qui veulent se jeter sur lui, et en plus, il obtient là un effet acoustique intéressant pour que les gens puissent entendre l'enseignement qu'il veut leur donner. Par le moyen de la barque sur le lac, Jésus, en fait, élargit ses ressources pour annoncer la parole de Dieu. Ce thème-là, des ressources pour annoncer la parole de Dieu, continuera d'être présent dans la suite. L'attention dans notre passage change alors de sujet. On passe des foules enseignées à Simon-Pierre et à ses associés. Jésus invite Simon à aller au large et à jeter les filets. Il faut se rendre compte que pour Simon, la journée de travail était en fait terminée. Ils venaient de laver leurs filets après avoir passé une nuit sans rien prendre. Ils aspiraient donc certainement à avoir un peu de repos. Déjà, il avait fait un extra en acceptant de mettre sa barque à disposition de Jésus pour son enseignement. Il y a une bonne volonté qui est alors manifestée de la part de Simon, même si elle va avec une petite remarque. « Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. » Et d'une certaine manière, les experts en pêche, c'est eux. Ce Jésus de Nazareth, il a appris le métier de charpentier, pas celui de pêcheur. Il reconnaît cependant une autorité à la parole de Jésus. il l'a assurément entendu enseigner les foules puisqu'il était dans la même barque. Cependant, il ne reconnaît encore Jésus que comme un homme ayant autorité. Il l'appelle « maître ». En grec, c'est le mot « epistata », ce qui est plus proche de « maître patron » que du « maître enseignant ». Ils font alors l'expérience d'une pêche miraculeuse, une pêche surabondante. Ils se sont mis à deux barques et leur filet menace de craquer, les deux barques menacent d'enfoncer tant il y a de poissons. Voilà que ces hommes font l'expérience de l'autorité et de la puissance de la parole de Jésus, non pas de façon générale, mais très concrètement au cœur même de l'activité ordinaire de leur existence, de leurs moyens de subsistance. Mais ils font l'expérience de cette puissance alors même qu'ils avaient fait l'expérience de la stérilité de leurs efforts précédemment. Ils avaient pêché toute la nuit sans rien prendre. Voilà qu'un renversement se produit, ce qui était annoncé comme un mauvais jour, un jour où on ne prend rien, un jour de stérilité, est devenu, par la parole de Jésus qu'ils ont écoutée et mise en pratique, un jour de pêche surabondante, inattendue, au-delà de tout ce qu'ils pouvaient présager. Simon tire alors la conséquence de ce qui vient se passer. On nous dit qu'il tombe aux genoux de Jésus, et vous remarquez qu'il s'adresse à lui en changeant le terme. Ce n'est plus epistata, ce n'est plus maître, ce n'est plus patron, c'est désormais Seigneur. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Il est saisi de crainte, comme les autres dans la barque, parce qu'il sent qu'il y a là une intervention divine. Il sent qu'il y a là une puissance qui vient de Dieu, dont ils ont été les témoins et les bénéficiaires. Je voudrais souligner cette capacité à tirer des conséquences de la part de Simon. Il aurait pu en rester à une joie un peu cupide d'avoir amassé beaucoup de poissons, le regard tourné vers la vente exceptionnelle qu'il allait pouvoir faire. Mais non, il n'est pas aveugle à l'origine du bien dont il est le bénéficiaire. Cela nous invite à nous interroger nous-mêmes. Est-ce que nous sommes disposés à reconnaître dans le Seigneur l'origine des biens parfois surprenants dont nous sommes les bénéficiaires? Ou bien est-ce que nous les recevons en nous réjouissant de les posséder, mais sans esprit d'action de grâce? Du côté de Simon, la reconnaissance de cette lumière divine dans sa barque lui rappelle aussi la présence de ses péchés, de la même façon que la lumière fait apparaître les ombres. À la clarté de cette lumière divine, Simon-Pierre reconnaît qu'il est un homme pécheur. Cependant, cette reconnaissance d'être un homme pécheur ne le disqualifie pas aux yeux de Jésus qui lui dit « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras ». Voilà que Jésus donne à Simon-Pierre une vocation nouvelle, comme le disent les autres évangélistes, de pécheur, il devient pécheur d'hommes. Revenu au rivage, ils laissent tout et suivent Jésus désormais comme disciples. D'auditeurs, ils sont devenus disciples de Jésus, disciples du maître qui les enseignait, disciples du Seigneur qui leur a donné de faire cette pêche miraculeuse. Dans le premier tableau de cet épisode, nous voyons comment Jésus avait élargi ses ressources pour enseigner les foules par le stratagème de la barque. À la fin de ce deuxième tableau de l'épisode, nous voyons comment Jésus a élargi ses ressources pour l'annonce de la parole en s'adjoignant des disciples qui auront à faire ce que lui-même a fait d'une certaine manière. Il n'y a pas que du poisson qui a été pêché, il y a des disciples qui ont été pêchés par Jésus et qui vont avec lui se mettre à cette tâche d'attraper des hommes dans les filets du royaume. Je vous propose maintenant de nous arrêter un instant sur les qualités des disciples que Jésus a choisis. Ce sont d'abord des hommes qui ont fait l'expérience du labeur stérile. Ils ont passé toute une nuit sans rien prendre. Ils ont fait l'expérience de leurs limites dans leur capacité de travail. Ce sont aussi des hommes qui ont osé faire confiance au-delà de la déception et de la fatigue. Ils ont mis la barque à disposition de Jésus, ils jettent les filets, alors que Jésus n'est pas a priori un expert de la pêche. Ils ne le reconnaissent à ce moment-là que comme un homme d'autorité et pas encore comme le Seigneur. Et cela nous permet de nous interroger. Est-ce que je suis prêt à faire confiance à la parole de Jésus, alors même qu'il y a des jours où la puissance de sa divinité, la clarté de sa divinité ne m'apparaît pas? Je le reconnais quand même comme un homme ayant autorité sur ma vie, un homme que beaucoup écoutent. Mais suis-je prêt à accorder cette confiance au-delà de la fatigue du jour, de jeter encore une fois les filets parce qu'il me le demande? En effet, c'est cette confiance qui a permis la manifestation de la puissance de Dieu dans le plus concret de leur vie. Ouvrons-nous au Seigneur par notre confiance le lieu où sa puissance peut se manifester? C'est une vraie question. Les disciples sont aussi ceux qui ont pris conscience de leurs péchés à la lumière de la présence divine. Ce ne sont pas des parfaits, ce ne sont pas des hommes sans aucune tâche. Ils ont cette expérience du péché dans leur vie. Mais la formule de Simon-Pierre est importante. Il ne dit pas simplement « je suis un pécheur ». Il dit « je suis un homme pécheur ». Alors ce qui signifie même littéralement un homme masculin pécheur. En quoi cette formule est-elle intéressante? C'est que Simon-Pierre ne se réduit pas lui-même à son péché. Or, c'est un des effets du péché de nous faire dire et de nous faire croire que nous ne sommes que notre péché. Voilà, tu n'es que péché depuis le jour de ta naissance, vont dire les pharisiens à l'aveugle-né. Non, il est un homme jusque dans son identité sexuée qu'il possède, qu'il reconnaît, qui a commis des péchés, qui est l'auteur de péchés, mais il ne se réduit pas à son péché, quand bien même il avait pu y mettre tout son cœur. Ainsi, nous voyons que l'appel de Dieu n'est pas ignorant ni de notre faiblesse, ni de notre péché, et que cet appel nous invite et nous permet, nous aussi, d'être ni ignorants de notre faiblesse, ni ignorants de notre péché, et pourtant confiant dans la réalité de l'appel du Seigneur et confiant dans le fait que c'est lui qui donnera la fécondité à notre action. Cette conscience et cette expérience leur permet d'accepter un bouleversement de leur vie. Laissant tout, ils le suivirent. Et cela nous interroge. Quelle est la barque que je dois laisser? Quel est le tout que je dois laisser pour suivre le Christ? Il ne s'agit pas forcément d'abandonner mon emploi et ma maison, mais la parole de Dieu ne peut pas passer dans notre cœur sans bouleverser, sans transformer notre vie. Quel est ce qui doit être transformé? Je vous souhaite de bons échanges.